Chapitre 9. Bon, ben si, nous avons réussi à baptiser la maison. Et si ce n'est pas notre future maison, nous avons baptisé celle de quelqu'un. Lorsque nous terminons notre petite affaire, Ethan est de bonne humeur, comme on peut s'y attendre. Peu importe le nombre de fois où nous avons fait l'amour, il agit toujours comme si c'était ce qu'il y avait de meilleur au monde et qu'il n'en revenait pas d'avoir décroché le pompon avec moi. C'est adorable. C'est un garçon adorable. Mes amis se trompent complètement avec leurs signaux d'alarme. Il n'est pas parfait, mais qui l'est? Ce serait peut-être le bon moment pour lui parler du bébé, vu son excellente humeur, son enthousiasme à propos de la maison. Comment pourrait-il y avoir de meilleurs moments? « Tu es bien silencieuse, » remarque-t-il en remontant la fermeture de son pantalon kaki. « Ah oui, tu trouves ? » ?»« Oui, tu as l'air pensive. » Mes lèvres frémissent. « Pensive ?» Comme si quelque chose te trottait dans la tête. C'est le moment, je pourrais le lui dire. Peut-être qu'il le prendra bien. Il veut avoir des enfants au bout du compte. Alors non, ce n'est pas tout à fait le calendrier que nous avons prévu. Mais les bébés, ça arrive. On ne peut pas tout contrôler. J'ouvre la bouche, prête à prononcer les mots. Je suis enceinte et tanne. Mais ils ne sortent pas, sans que je sache trop pourquoi. Peut-être ai-je quelque réticence à lui annoncer une nouvelle surprenante, voire bouleversante, alors que nous sommes coincés dans une maison isolée, rien que tous les deux, où personne ne peut nous entendre et dont il n'y a aucun moyen de partir. Je cligne des yeux, surprise par mes pensées. La dernière en particulier n'a aucun sens. Sans doute un accès de paranoïa lié aux hormones de grossesse. Oui, j'ai peur qu'Ethan ne soit pas ravi de ma nouvelle, et oui, il a un caractère bien trempé. Mais il ne me ferait jamais de mal. Je le sais pertinemment. Rien ne me trotte dans la tête. Je finis par lâcher. Je suis juste un peu fatiguée. Tu m'as épuisée. Je ponctue mon mensonge d'un large sourire. Et Ethan rayonne de fierté. Il s'étire, histoire d'exhiber quelques poils dorés sur son ventre. Mon mari est si beau. La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il était l'homme le plus parfait qu'il m'ait été donné de croiser. Je pensais remarquer de plus en plus d'imperfections à mesure que je le connaîtrais et le fréquenterais. Et j'en ai identifié quelques-unes. Ses yeux sont trop rapprochés, il est un peu trop petit pour un homme, ses poils dorés et bouclés, il n'en a pas seulement sur le torse, mais aussi dans le dos. Bizarrement, cependant, toutes ces imperfections me le rendent encore plus beau. Je ne peux pas l'expliquer. « Ça te dérange si je prends une douche ?» demande-t-il. « Une douche ? Bien sûr, l'eau chaude a l'air de marcher. Et j'ai bien transpiré, » ajoute-t-il avec une œillade. « Oui, mais tu n'as pas de vêtements de rechange. » Je n'ai pas envie de lui expliquer en quoi l'idée qu'il prenne une douche ici me met mal à l'aise. N'empêche, ce serait agréable de me laver. Je me creuse la tête en quête d'une bonne raison pour le dissuader. Rien de logique ne me vient. Tu vas utiliser la salle de bain principale ? J'en avais l'intention. Ça ne te met pas mal à l'aise ? Je veux dire, la dernière personne qui a utilisé cette salle de bain est morte. Il hausse les épaules.
Bah non, ça ne me dérange pas tant que ça. Cette psy a disparu il y a quoi ? Environ 3 ans ? Ce n'est pas comme si elle avait utilisé la salle de bain hier.
Ce sont les hormones de grossesse. Je suis sûre que c'est ce qui me met si mal à l'aise. Il n'y a aucune raison pour qu'Ethan ne prenne pas une douche dans la salle de bain principale. Très bien, je vais rester ici.
Bien sûr. Finis ton vin.
Ah oui. Ça me rappelle que je dois verser le reste de mon vin dans l'évier pour qu'il croie que je l'ai bu. C'est seulement en regardant Ethan disparaître dans l'escalier incurvé que je me rappelle la cassette cachée dans la poche de mon manteau. Quand j'étais dans le bureau, j'ai vu un magnétophone, mais pas de cassette à lire. Maintenant, j'ai trouvé le filon. Ethan ne voudrait sûrement pas que j'écoute les cassettes, mais s'il est occupé sous la douche, je peux faire ce que je veux. Dès que l'eau commence à couler à l'étage, je sors la cassette de la poche de mon manteau et je retourne au bureau d'Adrienne Hale. Le magnétophone est là où je l'ai laissé, sur ce magnifique bureau en acajou. Je m'assieds dans le fauteuil en cuir et j'examine les boutons de l'appareil poussiéreux. Enregistrement, lecture, rembobinage, avance rapide, stop, éjecte et pause. J'appuie timidement sur le bouton stop, éjecte. Le magnétophone s'ouvre. Je souffle un peu la poussière sur l'appareil, puis je récupère la cassette trouvée dans la pièce cachée. Étiqueté aux initiales PL. À côté, numéro 2. Et la date, il y a environ 6 ans. Je sors la cassette de son boîtier, la secoue, puis je la glisse dans le magnétophone. D'un geste rapide, je rabats le couvercle. Je ne suis pas sûre que les piles du magnétophone fonctionnent. Il est possible que la fonction d'éjection soit actionnée par un ressort ou quelque chose comme ça. Combien de temps durent des piles si on ne les utilise pas ? Ethan connaîtrait probablement la réponse à cette question. Mais comme il ne voudrait pas que j'écoute ses cassettes, je ne peux pas la lui poser. J'enfonce l'index sur le bouton de rembobinage. Instantanément, un ronronnement m'indique que la bande revient au début. On dirait que les piles fonctionnent encore. Au bout d'une minute environ, un déclic retentit et le rembobinage s'arrête. La cassette est au début, prête à être écoutée. Mon doigt plane au-dessus du bouton lecture. Est-ce que je vais vraiment le faire ? Écouter les séances privées que le docteur Adrienne Hale a enregistrées et cachées dans une pièce secrète ? Oui. On dirait bien que oui.